fais de l'Éternel tes délices. Psaume 37, versets 3 à 6. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Amen. Fais de l'Éternel tes délices. Dans le passage que nous avons lu, il est dit, aie le pays pour demeure. Aie le pays pour demeure. C'est dans le verset 3. Dieu, en s'intéressant à Abraham, n'avait pas pour objectif de sauver un vieil homme avec sa vieille femme. Il avait pour objectif de fonder un peuple à partir duquel il sauvera toutes les nations. Parce que tous ont péché et ont besoin de la gloire de Dieu. Dieu n'avait pas pour objectif de fonder Israël pour avoir une seule nation dans le monde, de sorte à faire qu'on dise que ça, c'est la nation de Dieu. Dieu voulait, par une allégorie, en fondant une nation, passer par Israël afin que l'on craigne Dieu et qu'on fasse de lui les délices des nations, que les pays se confient en lui, que les hommes se confient en lui. Le psaume 37 est un psaume plein d'enseignements. Ça commence par ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Mais c'est un psaume qui contient plusieurs versets que tu ne pourras pas finir de méditer. Chaque verset comporte des enseignements très importants. Fais de l'Éternel tes délices. Je vous ai parlé de la prière. Mes amis, ce que je sais de Dieu me permet de vous dire de vous engager dans une mission. Est-ce que c'est une mission? Oui, peut-être un service pour Dieu. Et prenez la relation avec Dieu, quel que soit ce que ça peut vous occuper. Prenez ça comme quelque chose que vous faites comme une obligation que vous remplissez avec joie. Ouais, comme un emploi que vous accomplissez, prenez-le comme un emploi qui se déroule avec joie. Il y a plusieurs formes d'employés. J'en connais qui sont là, qui font le malin. Ils sont là. Ils sont employés de l'institution. Mais ils croient faire quelque chose contre quelqu'un en ne travaillant pas. Eux aussi sont là. Ils sont payés. Ils seront retraités. Peut-être jusqu'à la retraite, ils n'auront pas su. Peut-être qu'ils croiront même que c'est la C'est une façon de vivre en laissant travailler les autres et à la fin du mois, eux, ils prennent leur salaire. Oui, ils seront retraités, ils prendront leur solde de retraite comme les autres. S'ils sont au même grade, ils prendront leur argent, le même, ils auront le même traitement. J'en connais qui prennent le travail comme une corvée, comme disent les Français. Les Français considèrent le travail comme une corvée. Et j'en connais qui accomplissent leur emploi, leur travail, comme avec joie, avec détermination et avec volonté, comme les Allemands. J'en connais qui vont faire leur travail parce qu'on les y oblige. Ils n'ont pas d'échappatoire, comme les Chinois, comme les Russes. J'en connais qui sont déterminés à faire leur travail pour l'honneur de leur pays, comme les Américains. Je voudrais vous encourager à faire de l'Éternel votre délice, à prier en tout temps, à vous soutenir, à soutenir votre marche avec Dieu, avec la prière. Nous devons reprendre ça. Nous devons reprendre ça. Je ne sais comment, mais il faut que nous prenions cette relation avec Dieu avec joie. Ce n'est pas une corvée. Fais de l'Éternel tes délices et tu donneras ce que ton cœur désire. C'est le Saint-Esprit qui met dans notre cœur ce qui doit être bon. Mais si tu ne fais pas de l'Éternel tes délices, ton cœur va penser autre chose qui n'est pas la volonté de Dieu. Tu vas prier contre la volonté de Dieu et tu vas croire que tu es en train de prier. Jacques 1 dit, mes frères, Jacques 1, verset 2 à 5. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Faites de l'Éternel tes délices. Regardez comme un sujet de joie parfaite les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Les voies dans lesquelles Dieu vous amène, regardez ces voies comme un sujet de joie parfaite. Alors que nous nous énervons parce que ça là, ce n'est pas ce que moi je désire, ça ce n'est pas ce que je veux faire. Dieu, Jacques, dans son épître aux Hébreux, dit, regardez comme un sujet de joie. Il s'adresse aux Hébreux qui sont dans la dispersion, qui sont dans plusieurs pays. Les Hébreux étaient depuis dispersés dans plusieurs pays. Il dit, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Jacques 1, verset 1. Il parle au peuple de Dieu, comme je m'adresse à vous ce matin. Et il commence, mes frères, lorsque Dieu vous pousse dans un chemin, regardez cela plutôt comme un sujet de joie parfaite, un sujet de joie complète. Il n'y a plus rien au-delà de ça. Si vous vous cherchez au-delà de ça, Dieu a, c'est un sujet de joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit de la patience. Toi, tu pensais prendre cette voie, aller vite et avoir un résultat. Tu croyais que si tu as 1 an, si tu as 10 ans, voilà comment tu as fait ton programme. Et tu vois que Dieu a plutôt et te fait plutôt traîner sur une voie ou bien t'impose une voie plus longue. Et il dit, cette voie de Dieu produit de la patience. Mais il faut que vous attendiez. Verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il faut que tu patiemment, tu laisses Dieu te conduire dans cette épreuve parce que Dieu a la fin à quelque chose de bien à te dire. Il faut, sachant que l'épreuve de votre foi produit de la patience, verset 3, Jacques 1, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Si vous voulez, si vous prenez les voies de Dieu, prenez ça avec une joie complète, pas une joie partielle. Et même quand on parle de l'épreuve, hein, donc ce qui veut dire que ce n'est pas une fête. Ce que ton cœur humain te dit, ce n'est pas ça qui arrive, c'est pourquoi on appelle ça une épreuve. Et il est dit ici, il n'y aura même pas une seule épreuve. Il y aura diverses épreuves. S'il y a une pour laquelle tu t'énerves ou tu es dans tous tes états, c'est ton problème. Mais la parole de Dieu dit, prenez ça comme un sujet de joie parfaite, de joie complète. Il ne doit pas avoir un énervement à côté. Vous ne devez pas avoir... Vous ne devez pas vous réserver, avoir une réserve dans cette joie. Elle doit être complète. Mais même si c'est une épreuve, parce que l'épreuve de la foi, l'épreuve, personne ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Et la foi ne peut exister sans l'épreuve. Et c'est pourquoi on l'appelle ici l'épreuve de la foi. Quand tu dis, je suis chrétien, je suis chrétienne, tu vas à l'église, tu es peut-être diacre, tu es pasteur, tu es dans la chorale, tu es, je ne sais où, tu es tout simplement un chrétien dans le temple. Sache qu'avec Dieu, il y aura plusieurs épreuves, mais tu dois prendre ça avec joie, une joie complète. Sachant que l'épreuve de la foi, puisque tu dis que tu as la foi, Dieu te dit, bon, ok, donc nous allons essayer quelque chose. Ce à quoi tu ne t'attends pas, et Dieu te demande de rentrer dans cette voie. Toutes les voies appartiennent à Dieu. Toutes les voies appartiennent à Dieu. Et donc, quand Dieu te donne une voie, c'est pas facile, mais on te demande d'avoir de la joie dans cette voie. Mes amis, je vous dis, le même Dieu qui a sorti Abraham de la maison de son père. C'est le même Dieu que nous adorons. Et dès qu'il dit une petite chose, nous sommes incapables de l'accomplir et nous croyons, nous voulons nous réclamer de ce Dieu. C'est pour qu'on parle de l'épreuve de la foi et la fidélité pour battre. Il n'a pas dit va dans la meilleure terre pour battre, non. est la fidélité. La fidélité à Dieu, c'est même dans l'épreuve, tu dis, Dieu, je te fais confiance. C'est ça qu'on appelle la fidélité. Je te fais confiance. Aveuglément, je te fais confiance. Je t'appartiens. Qui suis-je? Je te fais confiance. Moi, je te fais confiance. Même si je n'ai pas compris, je te fais confiance. La fidélité pour Pâture. Job dit, la femme de Job a dit à Job, maudit Dieu, avec ce qui t'arrive là, nous avons perdu nos enfants, tu as perdu tes richesses, tu as tout perdu. Et je vous dis que la femme de Job vient de la maison de Dieu. Le livre de Job est plus ancien. L'histoire de Job est plus ancienne que l'histoire de Moïse. Moïse est venu, Jacob est mort. Depuis, ils ont passé 400 ans. L'histoire de Job se passait au temps de Jacob. Si vous ne connaissez pas la Bible, vous allez croire que la Bible est un livre, il y a une suite. Non, voilà, la Bible même n'est pas conçue pour qu'il y ait une suite normale comme nous pensons les choses. Comme j'ai découvert que Darius, même le roi Darius, était le fils d'Esther. Donc, vous voyez, on a parlé de Darius et autres avant même de parler d'Esther. Donc, vous vous demandez comment Dieu a inspiré les gens pour rassembler la Bible. Vous lisez les évangiles, vous croyez que c'est Matthieu qui a été le premier à écrire les évangiles? Non, c'est Marc. Donc, il n'y a rien de normal comme chez nous, les hommes, dans la Bible. C'est pourquoi je vous dis, quand Dieu vous parle, et si vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas un peu comment ce Dieu monte ses affaires, je ne sais pas si vous comprenez monter une affaire. Si vous ne savez pas comment Dieu monte ses affaires, vous allez vous tromper sur ce Dieu et croyez-vous même défendre des causes qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui sont même pour lesquelles Dieu va vous frapper. Tu vas défendre des causes croyant que tu es chrétien et Dieu va te frapper pour cette cause. Parce que tu pensais adorer un Dieu que tu ne connais pas. C'est bien de lire la Bible. Hein. C'est bien de dire qu'on est chrétien sans savoir les conditions qui font d'un homme un chrétien. Tu ne veux pas écouter Dieu, tu ne veux pas être. Tu ne veux pas de l'éternel tes délices. Tu ne veux pas considérer les épreuves comme un sujet de joie complète. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Et la fidélité à Dieu pour pâture. Ne te confie pas en tes richesses. Ne te confie pas à ce que tu vois à côté, comment les choses se développent pour les gens et autres. Non. Je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez compris que nous n'adorons pas un Dieu qui viendra nous dire que il nous donne quelque chose. Moi j'ai des besoins aujourd'hui. Donc, je vais venir me dire, ah, je te le fais. C'est mon affaire. Ça ne le concerne pas. Ça dit, vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai à l'idée à vous dire, à vous dire, ça ne le concerne pas. Si moi, un homme, on peut dire qu'on me parle. Ah. Alors que la personne croit que je suis concerné, je ne suis pas concerné. Quand je vous dis que ça ne concerne pas Dieu, Nous pourrons crier de toutes les manières. Prenons Jacques 1, verset 1. Dans, à tout le peuple de Dieu qui est dans la dispersion, à tout le peuple de Dieu qui est ici et qui est dehors, qui nous écoute et qui n'est même pas venu ici sur les ondes, à tout ce peuple, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Et le verset 5 dit, si tu penses, si tu vois que tu n'as pas assez d'intelligence, assez de sagesse pour comprendre ces choses, alors demande à Dieu de la sagesse. Et Dieu te donnera simplement cette sagesse et sans reproche. Le verset 5. Si tu n'es pas assez sage pour te mettre, pour te conduire dans les épreuves de Dieu comme il te doit, avec patience. Quand on dit patience devant Dieu, oh mes amis, 400 ans, quelqu'un est dans sa maison, il n'a pas d'enfant, il ne t'a pas demandé. Tu vas le sortir. Il te demande, bon, maintenant, l'affaire là, moi je suis sorti. Maintenant, toi qui dis que si je suis sorti, tu vas me donner une progéniture. Comment je dois le savoir? Il dit, ah, sache que les enfants que tu vas faire là, ils vont aller en esclavage pendant 400 ans. Oh, c'est pour envoyer ma progéniture en esclavage pendant 400 ans que tu m'a fait venir ici. C'est pour ça que tu m'as fait venir ici. C'est pour ça que tu m'as donné tu as voulu me donner une terre 400 ans. Si c'était vous, vous retourneriez à la maison de votre père ou vous resterez là-bas, attendre d'avoir des enfants qui vont aller souffrir pour faire 400 ans. Et on ne vous donne pas la suite. On vous dit après ça, il viendra, etc. Si tu peux venir après 400 ans, pourquoi tu ne les sauves pas maintenant, tu dois les envoyer là-bas. Ça, c'est de l'intelligence humaine. Si tu manques de la sagesse pour comprendre comment Dieu fait ces choses, alors demande de la sagesse à Dieu. Mais pour avoir cette sagesse, il faut faire de l'Éternel des délices. Ainsi, Dieu mettra dans ton cœur ce qui fait la volonté parfaite de Dieu et qui sera tes désirs. Tes désirs seront plus ce que tu souhaites avoir dans la vie. Ce ne sera plus ce que toi-même tu penses. Ce ne sera plus ce que toi-même tu penses. Dans la tête de Daniel, il a fait de l'Éternel ses désirs. Lorsqu'on est jeté, on est abandonné parmi les lions. Il faut trouver une force, soit pour tuer les lions ou les endormir. Mais c'est Dieu qui a endormi les lions. Et le roi, en passant le matin, dit, puisque le roi, c'est là où je fais la relation entre ceux qui connaissaient Dieu, le Dieu que nous adorons, les rois qui connaissaient le Dieu que nous adorons, même s'ils ne l'adorent pas, ils savent. Nous allons prier. Dieu a des armes sophistiquées, mes amis. Quand tu fais confiance à ton intelligence, à tes amis, aux gens qui t'entourent, à comment les choses se passent dans la vie. Quand ça va tomber comme une bombe, ceux-là même ne savent pas, ils sont en train de chercher où aller. Et c'est en ce moment que tu sauras que tout est fini pour toi. La patience de Dieu peut durer. L'épreuve peut prendre du temps. Ça peut prendre des années. Mais je vous assure que Dieu nous rendra libres et victorieux à la fin de l'épreuve si nous avons notre patience, une patience pour notre foi. Si nous avons la patience, si nous prenons l'épreuve comme un sujet de joie complète et que nous suivons Dieu, nous lui faisons confiance tel qu'il le dit. Quand il a dit Abraham, Abraham est sorti, comment je dois savoir que tu as, mes enfants vont devenir. Abraham veut même adopter. Il y avait quelqu'un chez lui qu'il voulait prendre comme enfant. Mais Dieu dit non, ce n'est pas lui. Abraham a essayé. Il a eu même Ismaël. Dieu dit, ce n'est pas ça que j'ai dit. Il faut que tu suives ce que j'ai dit. C'est ça qui a été suivi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Ceux qui n'acceptent pas les voies de Dieu, alors revenons et faisons de l'Éternel notre délice en priant sans cesse. Abandonnons-nous à Dieu sans nous poser de questions. Puisque tu n'auras pas de réponse jusqu'à ce que Dieu lui-même décide de faire avancer le processus pour qu'il te mette quelque part. Beaucoup de choses se passent devant nous. Nous pensons que ce n'est pas Dieu. Mais c'est lui qui contrôle toutes les situations. Il est au contrôle de toutes les situations. Prions. Nyambe tia pour dire, pour tout mais ton mon Yesu Voix de que ma homo, mais d'aimer, Yesu, c'est qu'à ton merci. N'agape, c'est ciel, mou, mais j'en doute. Mais d'aimer, Yesu, à homo, à vaillant. Mais d'aimer, Yesu, voix de que ma homo, mais d'aimer, Yesu, nous sommes cantons ici. Mes amis, si la parole de Dieu te cause l'affliction, l'énervement, glorifie-toi et tourne-toi vers l'Éternel. Comme Paul le dit, bien plus, nous nous glorifions des afflictions. Comme Paul le dit aux Romains, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit de la persévérance. Donc, il n'est pas question de rompre la patience. Il faut être persévérant dans la patience. En continuant d'être, de faire ce que Dieu vous a dit jusqu'à ce qu'il change. Dieu vous change. Dieu vous dise la suite. Paul, un homme libre, qui avait la force, pensant connaître Dieu, pensant connaître la loi, la Torah, pensant se battre pour Dieu, a été rattrapé par Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Vous pouvez voir aujourd'hui quelle distance sépare Damas de Jérusalem. Damas est au nord de Jérusalem. C'est sur ce chemin, croyant en l'homme, défendre Dieu, que le même Dieu l'a attrapé pour changer ce que son cœur désire charnellement en ce que son cœur devait désirer spirituellement dans la vérité de Dieu. Lui pensait que c'était ce qu'il faisait qui était la volonté, la loi. Dieu, il pensait que les autres ne faisaient pas, n'accomplissaient pas la loi. Ces gens-là ne font pas la parole de Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Dieu ne peut pas être avec ces gens-là. C'est pourquoi il allait les jeter en prison. Dieu n'a pas eu besoin d'une prédication. C'est un seul événement qui a changé Paul. Saul en Paul. Il s'était même réjoui quand on lapidait Étienne. Il était jeune. Paul n'était pas âgé. Hein. Il était jeune, mais fougueux, croyant faire la volonté de Dieu. Il n'aimait pas ce que les disciples de Dieu, de Jésus-Christ, faisaient. Ce n'est pas ça que Dieu a dit, mais c'est ça qu'eux, ils font. Dieu l'a attrapé. Paul libre, qui peut jeter les gens en prison, se retrouve en prison. Ce n'est pas une fois. Et de la prison maintenant, ayant compris la parole de Dieu, il demande aux Philippiens de se réjouir. Réjouissez, c'est de la prison qu'il a écrit aux Philippiens. Il a trouvé cette épreuve comme un sujet de joie parfaite. Dites-moi qui parmi vous va aller dire à son frère que le frère qui est en prison là doit être un sujet de notre joie, ou bien d'aller dire au frère en prison, considère ton emprisonnement comme un sujet de joie complète. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui peut le faire. Mais c'est ça. Si la volonté de Dieu passe par là, tu ne dois pas douter. Paul dit, réjouissons-nous dans le Seigneur. Et dit, je le répète, réjouissez-vous que votre douceur dans l'épreuve soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Que l'épreuve ne vous inquiète pas. Mais que le Saint-Esprit vous aide à vous soutienne dans vos prières, afin que vous puissiez faire la volonté, accomplir la volonté parfaite de Dieu. Je vous ai dit il y a quelques années que je commence à avoir, je vous ai dit il y a quelques années que je commence à avoir peur de Dieu. Je ne sais pas si j'ai vraiment la crainte de Dieu, mais je commence à avoir peur de Dieu. Parce que tu penses son cerveau peut être usé comme le tien pour oublier. Lui n'a pas, je ne pense pas que Dieu ait un cerveau. Hein. Je ne l'ai jamais vu, mais on dit Dieu, c'est l'esprit. Jésus-Christ, c'est l'esprit. Je ne sais pas si un esprit a un cerveau. Quand toi, tu as oublié, quand les choses marchent au point où tu penses que Dieu a oublié, non. Éternel Dieu, tu m'as conduit dans tes voies. Tu as conduit les frères et sœurs dans leurs voies. Chacun a pris sa voie. Parfois, nous te faisons confiance. Parfois, nous pensons te faire confiance. Parfois, nous ne sommes pas d'accord avec toi. Croyant que tu es notre frère ou notre Père dans la chair, nous agissons comme si de la même manière que nous agissons avec nos parents, nos amis, nous avons nos sentiments humains et nous ne t'écoutons pas. Lorsque ta patience prend fin, tu peux agir au point où tu ne nous laisses pas le temps de crier à toi ou de prier. Tu peux agir fortement au point où tu ne laisses pas le temps à la technologie de nous aider. Tu peux agir au point où tu ne laisses pas le temps aux membres de famille, à quelqu'un d'autre, aux amis de nous aider. Donne à chacun d'entre nous de t'écouter, de faire ta volonté, même quand c'est difficile. Quand l'argile ne prend pas la forme que le potier souhaite, le potier reprend, remet son pot qui n'est pas bien fait. Le potier le remet en boule et reprend son travail. Éternel Dieu, cette année, ce matin, nous te disons que nous sommes des pots qui ne sont pas réussis, qui ont refusé de réussir en tes mains. Donne-nous une seconde chance, s'il te plaît. Remets-nous sur la tour. Rappelle à chacun ce que tu lui as dit. Rappelle à chacun ce que tu lui as dit. Et donne-nous le courage d'avancer dans tes voies. Ô Éternel, tu es le Dieu que nous invoquons chaque jour. Viens. Viens à notre secours. Donne-nous de prier sans cesse et d'être fidèle. Que la fidélité soit notre passion. Donne-nous d'avoir confiance en toi. Afin que tu fasses briller notre justice comme le soleil. Quand nous aurons dans nos cœurs, quand nous aurons fait ta volonté, peut-être quelque part où personne ne nous voit, réponds-nous par une justice qui brille comme le soleil, que tout le monde voit. Et donne-nous de nous taire, comme tu as dit dans le psaume 37, garde le silence devant l'Éternel pour toutes ces choses. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour tout. Encourage chacun d'entre nous. Que ton Saint-Esprit nous envahisse. Merci. Au nom de Jésus, nous allons prier. Que le Saint-Esprit nous ouvre les portes éternelles et souviens-toi que toutes nos sources sont en toi. Laisse échapper nos sources. Afin que nous puissions te dire merci après avoir passé toutes ces épreuves. Seigneur, soutiens-nous. Jeune comme vieillard, comme vieille, comme jeune. Enfant, même progéniture qui n'est pas encore née. Seigneur, le salaire d'Abraham repose toujours sur Israël. Tu ne l'as pas enlevé. Tu as dit, même si tu es dans le courroux, tu laisseras toujours une racine qui rejettera. Nous ne pourrons pas supporter ton courroux. Nous ne connaissons pas ton courroux. Mais quand nous lisons déjà ce qui s'est passé entre Israël et toi, nous pourrons nous imaginer ce qui pourrait être ton cœur. Nous demandons tout simplement que tu nous donnes la sagesse de faire ta volonté, de te faire confiance dans l'épreuve en étant patient, en étant persévérant, en faisant ta volonté. Seigneur, merci. Merci. Au nom de Jésus.